pour attaquer notre Déborah. Depuis le temps qu'on en parle, maintenant on va voir un peu son histoire à elle. Seigneur, nous te prions pour ce qui est à apporter ce matin, que ce soit ta pensée et non la mienne, que ce soit ce dont chacun a besoin pour repartir fortifié et encouragé. Que Seigneur, ce soit tes paroles et non les miennes, ta sagesse, ta puissance, ton esprit, Seigneur. C'est ce que nous voulons dans nos vies. Amen. Alors, on en était au chapitre 4 de Juges. On va le lire parce que c'est important qu'on resitue bien le passage, surtout que là, on a eu une coupure assez longue, je crois 3 ou 4 semaines. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Éhoud était mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Yabin, roi de Canaan, ou Jabin, suivant les traductions, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisra, et il habitait à Rochet-Goïm. Il faut remarquer en passant que Hatsor avait déjà été conquis par Josué. Ils n'ont pas maintenu la conquête. Et voilà le résultat. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les Israélites depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Ça, je pense que pour des générations, ça a dû faire l'effet d'une bombe. Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge. C'est-à-dire qu'elle avait le pouvoir de commandement, pouvoir judiciaire et pouvoir même militaire. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans les monts d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour le jugement. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh-Nephtali, et lui dit « Voici l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va faire du recrutement sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des fils de Nephtali et des fils de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kishon, Sisra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit « J'irai donc avec toi, mais tu n'auras pas de gloire dans la voie où tu t'engages, car l'Éternel vendra Sisra aux mains d'une femme. » Puis Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh. Une dizaine de milliers d'hommes montèrent sur ses pas, donc comme la prophétie l'avait dit, et Déborah monta aussi avec lui. Alors ça fait partie des textes de la Bible qui sont hyper surprenants. Dans tout plein de domaines. Mais avant, je vais quand même resituer la guerre qui va avoir lieu là. Un soir, je lisais des psaumes avant de m'endormir, et je suis tombée sur le psaume 106, et j'ai trouvé que c'était une bonne introduction à toute cette histoire de Déborah. Le psaume 106, on va lire à partir du verset 24. Celui qui a écrit le psaume, on ne sait pas qui c'est un psaume anonyme, mais ça reflète bien l'esprit de l'époque, et ça c'est important. Visiblement, ce psaume daterait de l'époque des rois. On ne sait pas qui l'a écrit, mais voilà. « Ils méprisèrent un pays enviable. » Donc, il parle aussi du pays d'Israël. « Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente. Ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel. » Vous voyez, mépriser, ne crurent pas, murmurèrent, n'obéirent pas. Alors il leva la main contre eux pour les faire tomber dans le désert, pour les faire tomber leur descendance parmi les nations. Donc ça, on l'a vu l'année dernière, hein, c'était cette période où ils ont tourné dans le désert. Et écoutez ça. Ils s'attachèrent à Baal Péor. Ils mangèrent des sacrifices destinés à des morts, suivant les traductions. Mais il y a pire que ça encore. Ils irritèrent l'Éternel par leurs agissements et une plaie fit irruption parmi eux. Et de nouveau, on voit Dieu qui intervient. On va passer un tout petit peu. Et on arrive au verset 34. Ils ne détruisirent pas les peuples que l'Éternel leur avait indiqués. Et nous, avec notre esprit actuel, 20e siècle occidental, heureusement, tiens quand même qu'ils n'ont pas détruit les peuples. Bon, Dieu leur avait dit de les détruire. Ils se mêlèrent avec les nations. Donc, 1, ils désobéissent, ils détruisent pas. 2, ils se mélangent. 3, ils apprirent à imiter leurs œuvres. Chaque fois qu'on n'obéit pas à Dieu, on finit par rentrer dans ce que lui voulait détruire. Donc, ils ne détruisirent pas, ils se mêlèrent avec les nations, ils apprirent à imiter leurs œuvres, et attention, ils rendirent un culte à leurs idoles, et quoi encore, qui furent pour eux un piège. Et ça, c'est un mécanisme systématique. L'idole qu'on a dans notre vie, quelle qu'elle soit, devient notre piège. Quelle que soit notre idole. À partir du moment où on va adorer une idole, c'est-à-dire lui donner priorité par rapport à ce qu'on fait dans la vie, par rapport à Dieu, si c'est la priorité, c'est ça qui va être un piège pour nous. On va le voir très très bien tout à l'heure. Et ça se gâte. Ils furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leur fils. Vous avez bien lu. Ils sacrifièrent leur fils et leur fille au démon. Et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs agissements. Prostitution étant délaisser Dieu, leur maître, pour aller vers des idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple. Est-ce que vous comprenez que la colère de Dieu s'enflamme quand on tue ses enfants pour les sacrifier aux idoles? Est-ce que vous comprenez que Dieu leur avait demandé de détruire ses peuples qui avaient comme habitude de sacrifier des enfants? Je crois que nous, malgré notre bel esprit occidental et notre grande sagesse, est-ce qu'on supporterait un peuple qui systématiquement assassine des enfants pour adorer ses idoles? Même nous, avec notre esprit tolérant et moderne, je pense que ça nous passerait quand même près du cœur. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons, ils répandirent le sang innocent. Et Dieu précise, le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres, ils se souillèrent par leurs œuvres. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, il prit en horreur son héritage, il les livra aux mains des nations, et le résultat, ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux, leurs ennemis les opprimèrent et ils furent humiliés sous leurs mains. Bien souvent, il les délivra. Et c'est justement l'histoire d'une délivrance qu'on va lire. Bien souvent, il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins, ils s'enfoncèrent dans leurs fautes. Il arrêta sa vue sur leur détresse lorsqu'il entendit leurs cris. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bienveillance. Il leur fit trouver compassion devant tous ceux qui les tenaient captifs. Vous voyez, même ce psaume reprend l'histoire perpétuelle du peuple d'Israël. Moi, souvent, je me demandais comment ils ont pu arriver à sacrifier leurs enfants, sachant que c'était absolument interdit dans la loi de Moïse. Sacrifier ce qu'on a de plus précieux. On va en reparler tout à l'heure. Le récit de Déborah va répondre parfaitement, si on le reprend, hein, au cycle qu'on a déjà évoqué. Alors, je le redis parce que c'est systématique. Hein. Au début du livre des Juges, on avait vu ce cycle que Samuel met bien en valeur. Hein. Je pense que c'est Samuel qui a écrit le livre des Juges. Et il y a ces fameuses cinq phases qui reviennent tout le temps. Révolte, on retrouve ça au verset 1 du chapitre 4. Ruine, bien sûr, apparemment ils se révoltent contre Dieu, c'est la ruine. Verset 2. Puis repentance, quand ils en ont vraiment marre de 20 ans d'oppression, ils finissent par se repentir. Chapitre 4, donc verset 3. Rédemption, c'est l'histoire de Déborah, verset 4 à 5, 31. Et après, il y a une période de repos. Dans la période de repos, tout va bien. Alors, on est rempli de reconnaissance à Dieu? Non. On se mélange au peuple, on réadore les idoles, on oublie Dieu et le cycle recommence. C'est effrayant. C'est la nature humaine. C'est effrayant. Absolument effrayant. Et là, ils avaient eu beaucoup de repos, 80 ans après Ehud. Donc, il avait dû vivre longtemps, puisque, en général, ils étaient fidèles tant que le juge était vivant. Quand le juge mourait, tout le monde repartait à la dérive. Alors, il faut bien garder à l'esprit, donc, j'insiste là-dessus, qu'on n'est pas dans la dynamique des guerres modernes, où ce sont des pays relativement civilisés qui vont se battre. Je dis relativement parce que, avec ce qu'on voit, mais on est vraiment avec des gens qui n'hésitaient pas à sacrifier leurs enfants et Dieu ne supporte pas ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans le psaume l'insistance de Dieu sur le fait de sacrifier les enfants. Et vous savez que les enfants sont très proches du cœur de Dieu. Régulièrement, vous allez voir dans la Bible que Dieu parle de la veuve et de l'orphelin. L'orphelin, c'est l'enfant, l'enfant isolé. Et que la vraie religion consiste à s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Vous allez voir, bien sûr, Jésus guérir beaucoup d'enfants. Et quand on lui amène les enfants, il les accueille les bras ouverts, même si ça fait du bruit, même s'ils ont le nez sale. J'imagine les petits-enfants à cette époque-là, hein, ça devait être assez épique. On le voit bien, certains films ont bien tourné cette scène. On voit les enfants tout dépenaillés, tout hirsutes et tout sales qui se jettent dans les bras de Jésus. C'est tout à fait comme ça qu'on imagine. Hein. Ils n'étaient pas pomponnés pour venir, ils les prenaient comme ils étaient. L'enfant est proche du cœur de Jésus. Et souvent, on voit dans l'Ancien Testament, enseignez-le à vos enfants, transmettez-le à vos enfants. Et j'insisterai jamais assez sur le fait de transmettre aux enfants. Non pas imposer aux enfants, mais transmettre. C'est pas la même chose. Transmettre, hein, c'est vraiment dans ce sens-là. Imposer, c'est ça, et ça, c'est pas génial. Dans le confort du repos, en fait, on oublie Dieu. Et justement, Yves parlait ce matin de la reconnaissance. Et je crois que très vite, on devient critique au lieu d'être reconnaissant. On regarde tout ce qui n'est pas là et on oublie tout ce que Dieu donne. C'est lui qui a pourtant accordé la paix, mais on profite de cette paix pour pactiser avec l'ennemi. Et le peuple va profiter de sa paix pour pactiser avec l'ennemi. Et plus on pactise avec l'ennemi et ses idoles, plus l'ennemi a de pouvoir sur nous et il vole nos biens. Alors nous, on n'a plus d'ennemis en chair et en os hein, qui sacrifient leurs enfants. Bien que le côté sacrifice, il existe toujours avec l'avortement. Mais on a l'ennemi en nous. Notre chair, c'est pas un cadeau, hein, parfois. On a un ennemi et il faut le combattre. On a le monde, les valeurs du monde, pas le monde, les gens, mais les valeurs du monde. Celles-ci aussi, il faut les combattre parfois quand elles sont pas bonnes. Et puis le diable, évidemment. Donc ça fait 3 ennemis, ça fait beaucoup. Ça fait déjà une petite armée, hein, entre notre chair, le monde et le diable. Jésus lui pouvait dire « Il n'a rien en moi », ce qui lui a permis de racheter l'humanité de l'esclavage du péché. Parce que lui, justement, pouvait dire « Le diable n'a rien en moi ». Nous, malheureusement, on peut pas le dire. C'est pour ça qu'on se confie en Jésus. On pourrait croire qu'en adorant les mêmes dieux, cananéens et israélites allaient se rapprocher. Et c'est ce qu'on dirait aujourd'hui. « Un petit mélange de cultures, ça fait du bien. » Et puis, voilà, faut de la tolérance, hein. On est amis, on fait des choses ensemble, une petite fête, un festin, et puis, oh bon, il y a quelques débordements, mais c'est pas grave. Ben, ils ont tenu exactement ce raisonnement-là, au début. Ils sont pas partis en disant, chouette, on va aller sacrifier nos enfants. Mais non, ils ont commencé avec des, il faut être tolérant, et puis après tous ces cananéens, ils sont pas si vilains que ça. Ils ont de l'argent, on peut commercer avec eux. Et ils vont se rapprocher des cananéens, jusqu'à ce que les cananéens finissent par les opprimer, et ça finit toujours comme ça. Quand on fait des compromis avec le monde, avec le diable ou avec sa chair, ça marche toujours comme ça. Le schéma est le même. C'est toujours ces 3 ennemis qui prennent le dessus sur nous. Le chrétien qui va adopter les valeurs du monde va finir par être opprimé par ces valeurs-là. On va prendre par exemple la liberté, grande valeur, surtout en France. Une de nos 3 grandes valeurs. Je suis libre. Je suis libre, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. J'ai de compte à rendre à personne. Liberté. Et un jour, cette liberté vous laisse complètement démunis. Parce que on en a profité pour faire des choses qui nous cassent. L'argent, c'est la même chose. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. L'argument qui démarre toujours, c'est tout le monde le fait. Et je pense que c'est un petit peu ça, hein, pour les Juifs à l'époque. Bah, tout le monde le fait. Regardez nos voisins cananéens. Et aujourd'hui, c'est un peu ça. L'avortement, c'est légal. Alors, vous savez, j'ai rendu avec Julie, on a rendu visite à Alexandra, qui se porte bien, vous êtes tous au courant. Les triplés grandissent joyeusement, apparemment. Hein? Elle est rentrée chez elle, là? Donc, mercredi, elle était encore à l'hôpital. Et elle sortait juste de son échographie, donc on a eu des nouvelles toutes fraîches. Et j'ai vu les moyens, son département s'appelle grossesse à haut risque. Les moyens qui sont déployés dans cet hôpital où travaille Isabelle pour sauver des bébés qui seraient pas viables au fin fond de l'Afrique ou au fin fond de l'Asie ou hein, chez les Esquimaux. Et on fait tout, on met tout en œuvre parce que ce sont des enfants précieux pour ces gens. Et j'imagine que dans un service pas très loin, on assassine des enfants tout à fait viables et tout à fait en bonne santé. C'est le problème de notre société. Bon, je ne parle pas des avortements thérapeutiques. Bon. Mais il y a quand même un souci. Mais c'est légal, alors on peut y aller. Parfois, c'est le travail qui devient une idole. Et vous avez tous vu des films de Walt Disney. Oh, quand même, j'espère. Vous avez de la culture. Et combien de films de Walt Disney vous voyez le papa qui est tellement absorbé dans son travail qu'il peut pas aller au match de son gamin, qu'il peut pas aller à la répétition de danse, enfin à la fête de danse de sa fille, etc. Bon, dans plein de films de Walt Disney, j'ai remarqué ça. Le travail devient une idole. Il faut travailler, bien sûr, c'est important. Il y a des fois, on peut pas tout faire, mais ça devient vraiment une idole qui bouffe toute la vie. Et après, ce travail écrase. Les relations peuvent devenir une idole. J'ai vu à la télévision, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas trop ce que c'était comme émission, c'était un éducateur qui s'adressait à un jeune homme de 16-17 ans qui vrillait complètement, qui partait à la dérive. Et le gamin disait, enfin c'est plus un gamin, c'est un grand, il disait à sa mère, « Ouais, avec tous tes amants, tu t'es jamais occupé de moi. Tu avais toujours un homme nouveau à la maison et moi, je n'étais pas ta préoccupation. » Pourquoi il tournait en vrille comme ça? Parce que sa mère avait idolâtré certains types de relations. La vie moderne a ses idoles. Et on va dire aussi pour les jeunes, oh, ça commence toujours tout petit, hein, tout le monde le fait, c'est légal. Il faut que jeunesse se passe, alors on fait pas de transmission, il n'y a pas de repère. Et ça fait son poids hein, sur les enfants, ça les écrase. C'est pour ça que Dieu est très sensible à ce qu'on transmet aux enfants. Et je le dis pas seulement parce que je fais l'école du dimanche, mais je crois que c'est très important. Très, très important dans le cœur de Dieu. Donc, comme toujours, hein, dans cette période de repos, le peuple se détourne, fait ce qui lui déplaît, s'attache aux idoles, ce qui déplaît à Dieu. Il fait des alliances commerciales, des mariages, des compromis de toutes sortes. Et ce peuple qui a fait confiance aux autres peuples va maintenant être confié, lui, aux mains de ces autres peuples et aux mains cruelles. Ça finit toujours comme ça. Vous faites confiance à quelque chose autre que Dieu. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, que cet homme soit vous-même ou d'autres gens. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Ça marche toujours de la même manière. Et il a fait confiance aux autres peuples, il va être confié aux mains de ces mêmes peuples. Évidemment, c'est la ruine, c'est la souffrance. Il va être opprimé, la Bible dit, pendant 20 ans. Et c'était pas très drôle, parce que c'était des gens qui étaient bien armés. Eux, évidemment, n'étaient pas très armés. Et humainement, la libération va être difficile. Quand vous êtes en face de 900 chars, ça... On prend des précautions, quand même. Hein. Il m'a semblé lire, j'ai pas retrouvé, mais je lis beaucoup de livres d'histoire, il me semble que sur un char, il y avait le conducteur du char et deux archers, si mes souvenirs sont bons. Donc, ça veut dire qu'ils pouvaient tirer non-stop, puisque quand un réarmait, il pouvait tirer régulièrement. Donc, c'était pas évident de faire face à des gens armés comme ça, plus tous les fantassins, mais il devait y en avoir. Hein. Mais, libération, à mon avis, humainement pas possible. Mais l'intervention de Dieu, et ça, il faut vraiment le garder dans notre cœur, l'intervention de Dieu dépend seulement de notre cœur et de notre obéissance. Elle n'est pas gênée par la force de l'ennemi. Les ennemis qu'on rencontre, c'est pas ça l'important. C'est notre obéissance à Dieu et notre soumission et notre dépendance de Dieu. Et on va le voir avec Déborah. Comme je vous ai fait remarquer tout à l'heure, Hatsor avait été déjà conquis par Josué, mais la tribu de Nephtali, apparemment, elle aurait dû dominer cette région. Elle a laissé l'ennemi reprendre du terrain. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait un peu mal parce que c'est un point pénible dans la vie de voir que des victoires qui ont été acquises par ceux qui nous ont précédés, elles sont pas nécessairement héritées. Il faut les maintenir. Dieu n'a pas de petits-enfants. À chaque génération, il faut se rapprocher de Dieu pour soi-même. Il y a des choses qui ont été acquises aussi dans les mouvements chrétiens et qui ont été perdues. Et alors là, j'en parlais il y a pas longtemps avec Cathy, je crois, à propos d'Alcooliques Anonymes. Hein. Combien de mouvements chrétiens, à la base, ont été créés par des chrétiens, inspirés par Dieu, remplis de la grâce et de l'Esprit de Dieu? Et sont devenus aujourd'hui, j'allais dire, des banalités, des trucs complètement absorbés par la société. Alors, j'en ai cité quelques-uns. La YMCA, rien à voir avec la chanson. C'est Young Men Christian Association. C'était chrétien, Young Men Christian Association. Aujourd'hui, c'est une auberge de jeunesse comme une autre. Les Alcooliques Anonymes, qui étaient profondément chrétiens. La Croix Bleue. La Croix-Rouge, eh oui, la Croix-Bleue pour les alcooliques et la Croix-Rouge pour les blessés de guerre. Tout ça, c'était des œuvres qui ont été mises en place par des chrétiens. qui aujourd'hui sont un petit peu vidées de leur contenu chrétien. On essaie de garder ce qui convient, quoi, ce qui convient à tout le monde, et on enlève le contenu chrétien. Je sais que l'Armée du Salut se bat aujourd'hui pour garder son contenu. Je les fréquente de très près et je sais qu'ils se battent. Ils se battent parce que de plus en plus, on essaie d'en faire comme les Restos du Cœur. C'est pas évident, hein. Alors que c'est la puissance de Dieu qui a mis ses œuvres en place. C'est la puissance de Dieu qui a ouvert les portes, qui a permis d'avoir les structures, qui a permis de faire des choses extraordinaires, de sauver des milliers de gens de la misère, de l'alcool, etc. Et aujourd'hui, petit à petit, on essaie de les vider de leur contenu. Vous savez, le diable, il est malin. Il regarde la bête et il la vide de son contenu. Il n'y a plus qu'une carcasse. Vous savez, les araignées font ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les araignées, elles sont championnes pour faire ça. Elles prennent un insecte dans leur toile, elles vident tout l'intérieur. Vous croyez que l'insecte, il est encore vivant? En fait, il n'y a plus rien dedans. Et le diable fonctionne comme ça. Hein. Il y a des institutions qui sont vraiment remplies de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, et on les vide de l'intérieur. Et pourquoi ça se passe? C'est parce que pour garder les victoires, pour maintenir une victoire, il faut avoir la même foi. Par exemple, le peuple d'Israël aurait dû avoir la même foi que Josué, la même obéissance que Josué et la même détermination. Si on perd ça, le contenu s'en va. On garde la carcasse, mais le contenu s'en va. C'est vrai aussi pour notre Église. Elle pourrait vivre des centaines d'années sans plus de contenu. Combien d'Églises vivent ça? Et on n'est pas à l'abri. Parce qu'il faut garder cette même foi, cette même obéissance, cette même détermination. Et dès qu'on pactise avec l'ennemi, on fait des compromis raisonnables, on va perdre les territoires acquis. On va peut-être garder la structure, mais l'intérieur va être parti. La vie de prière, la communion avec Dieu. C'est vrai aussi dans nos familles et dans beaucoup, beaucoup d'œuvres chrétiennes, comme je l'ai dit. C'est des gens qui ont eu des séries de victoires sur des situations impossibles. Je pense particulièrement à l'Armée du Salut. Puis l'œuvre prospère, on se relâche, on oublie ses principes de base, d'écoute de la parole de Dieu, de prière. On commence à compter sur d'autres choses. Et là, c'est là la catastrophe. On commence à compter sur soi ou sur d'autres structures. Talent, appui humain, argent, appui politique. Et l'œuvre perd son dynamisme, puis elle est doucement récupérée par le monde. Pensez à la foi de Luther ou de Calvin. Pensez à ces hommes. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir les films sur leur vie. C'est incroyable. Ah, merci. Il va pouvoir le présenter. Regardez ces films et pensez à ces hommes. Luther, il était rigolo parfois parce qu'il était assez grossier dans ce... Il était fonceur. Hein. Calvin était plus raffiné quand même. Mais des gens qui ont risqué leur vie pour le Seigneur, pour le salut par la foi en Jésus-Christ, et aujourd'hui, heureusement pas dans toutes, dans quelques églises réformées, protestantes, on va douter de la résurrection de Jésus. Ça me fait mal de penser combien sont allés aux galères, combien ont perdu leur vie pour annoncer la puissance du salut en Jésus-Christ, la résurrection de Jésus, et qu'aujourd'hui, des pasteurs qui descendent de cet héritage osent remettre en question la résurrection de Jésus, dire c'est un mythe, c'est... Aïe, aïe, penser que peut-être leurs ancêtres sont morts aux galères. Oh, quelle honte! Et pourquoi? Parce que ces principes de foi, d'obéissance, de détermination ont été vidés de l'intérieur. Après, il reste la structure. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Alors, pour nous, c'est la même chose. Si on n'entretient pas nos victoires, on peut garder l'extérieur, mais l'intérieur est fichu. Et c'est vrai dans nos familles. Si on ne transmet pas à nos enfants la foi, la prière, la détermination, l'obéissance à Dieu, voilà. Ce ne sera pas génial. Alors, on va voir maintenant qui est cette Déborah que Dieu va lever. Alors déjà, on est dans une époque où les femmes n'ont pas un rôle extraordinaire. Elles sont là pour planter la tente, faire la cuisine, élever les enfants. Bien que quand même, si on regarde attentivement le texte biblique, moi je trouve que elles étaient quand même honorées. Mais... voilà, on n'est pas au 21e siècle, là. Hein. Et le texte est très sobre. Moi, j'aime beaucoup la Bible. Le texte est très sobre. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Et Vlan, la bombe est lancée. C'est rigolo parce que j'imagine les lecteurs de, même encore il y a quelques siècles, on va pas lire ce passage. Vous savez ce que ça veut dire, Déborah? abeille. Alors, vous savez, c'est l'humour de Dieu. Malheureusement, c'est pas moi qui ai trouvé ça. C'est ce cher monsieur Arnold, que vous avez certainement connu, à Emmaüs. Et Déborah veut dire abeille. Donc, abeille, c'est du miel. Et puis, Jaël, la femme qui va tuer Sisra, ça veut dire, vous avez une idée? Chèvre. Chèvre, elle donne du lait. Et c'est le pays où coule le lait et le miel. Ah, voilà. C'était pas de moi, malheureusement, mais c'était intéressant. Dans le pays qui coule le lait et le miel, il y a deux femmes qui vont remporter la victoire, l'abeille et la chèvre. Le miel et le lait. Voilà. Alors, est-ce que vous vous souvenez, dans le Nouveau Testament, quel est le ministère des femmes? Je vous rappelle que l'espérance de vie tournait autour de 40-45 ans, et c'est Paul, hein, qui parle du ministère des femmes dans l'Église, un ministère très important. Le premier, le ministère de base d'une femme dans l'Église. Surtout les femmes âgées, je vous mets sur la piste. Âgées, donc, pour l'époque, c'est 40 ans. Hein. Eh oui, faut vivre avec son époque. Eh bien, c'est dans Tite, chapitre 2, verset 3. Qu'elles enseignent le bien ou qu'elles donnent un bel enseignement, j'ai regardé différentes traductions, afin d'apprendre, écoutez bien, d'apprendre aux jeunes femmes à aimer mari et enfant. C'est tout un boulot, ça. Hein. Aimer les maris, hein. On a bien besoin de toute une armée de femmes âgées, hein. C'est nécessaire, vous êtes bien d'accord avec moi, mesdames. Et puis, les enfants, ça a l'air très mignon comme ça, mais quand ils vomissent au milieu de la nuit, qu'ils donnent des coups de pied à leurs petits frères et qu'ils se roulent par terre et font une colère, on a besoin aussi du Seigneur pour les aimer comme il faut. Donc voilà, c'est le rôle des femmes, déjà, le premier. Donc vous voyez que hein, c'est tout un programme. Déborah, c'était un aparté. Déborah est prophétesse, et vous remarquez dans la façon dont elle est présentée, prophétesse, femme, épouse, et enfin, juge. Juge en Israël, faut le faire quand même. Alors, je voudrais souligner quelques points importants. En qualité de prophétesse, elle était forcément animée de l'Esprit de Dieu. Je vous rappelle que le prophète dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, n'est pas un devin ou un médium. Je le dis toujours aux enfants en classe, mais on a tellement cette image du prophète hirsute, les yeux dans le vague, qui va vous prédire votre avenir. Non, 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 en aucun cas. Le prophète était un homme de Dieu, qui était animé de l'Esprit de Dieu, et qui était là pour parler de la part de Dieu. D'ailleurs, le recours à ce genre de prophète illuminé est formellement interdit dans la Bible. Hein, vous lisez dans Deutéronome 18, versets 10 à 14. Formellement interdit de s'adresser à des devins ou à des médiums, des gens qui évoquent les morts, qui font les cartes, toutes sortes de choses. À l'époque, c'était pas des cartes, mais voilà. Et c'est formellement interdit. Et je pense que même dans les milieux chrétiens, le but n'est pas d'aller voir un prophète pour qu'il vous prédise votre avenir. C'est une déviation qui se rapproche vraiment de Deutéronome. Le prophète, même dans l'Église, à notre époque, n'est pas là pour vous prédire votre avenir. Je me souviens de John Wimber, qui avait beaucoup de prophètes dans son Église, et qui avait fini par interdire aux gens d'aller les consulter. Parce que les gens ne lisaient plus leur Bible, ne priaient plus, ne cherchaient plus Dieu pour eux-mêmes. On allait voir le prophète à la fin du culte. Et ces pauvres prophètes, ils étaient épuisés, ils faisaient de leur mieux, mais ils sont pas là pour ça. Et dans les milieux évangéliques, parfois, il y a ce danger. Hein. Le mot prophète veut dire celui qui s'avance pour parler. Le mot hébreu, nabi, c'est celui qui annonce. Il y a la notion d'envoyer, appelé de Dieu pour instruire le peuple, pas pour lui prédire son avenir, pour instruire le peuple. C'est un ambassadeur de Dieu auprès du peuple d'Israël. Il va prêcher la justice, dans le sens anglais du terme, righteousness, être droit devant Dieu. La fidélité à l'Éternel. Parfois, il va révéler les plans de Dieu. Mais parfois, d'ailleurs, ce sont des plans comme Jonas. Si vous n'obéissez pas, la ville sera détruite. Il lui sert de porte-parole, de messager, de berger et de sentinelle. Gardons bien ça à l'esprit. Le but, berger, sentinelle, messager, c'est pas un médium évangélique. Apparemment, le peuple avait vite reconnu en Déborah l'esprit et la sagesse de Dieu. Pour la bonne raison que c'était une femme, et déjà, il y avait une certaine réticence, je pense, à reconnaître un ministère. Il a fallu vraiment qu'elle soit remplie de l'Esprit de Dieu pour que les gens lui fassent confiance. Ils avaient même pris l'habitude d'aller la consulter à un endroit bien connu, sous un palmier. Elle faisait pas, elle avait pas un palais. sous un palmier entre Rama et Bethel dans la montagne d'Éphraïm. Donc elle n'essayait pas de financer son ministère non plus. Un palmier lui suffisait. Bon, en Occident, on serait peut-être un peu juste en France, mais là-bas, ça suffisait, un palmier, pour être bien, pour recevoir ces gens. Et tous les gens de la montagne d'Éphraïm venaient vers elle. À cette époque, il faut se rappeler qu'on n'avait pas la Bible imprimée, évidemment. Les rouleaux en peau de bête ou en papyrus, c'était très cher. Et il n'y en avait pas énormément. C'était, je pense, les prêtres, hein, les lévites qui devaient en posséder. Et donc, consulter le prophète dans les cas difficiles, c'était la solution. Il faut y penser. Nous, on a la parole de Dieu. C'était rechercher la pensée de Dieu, la sagesse et la justice de Dieu, ce qui est juste et bon. Et je crois que c'est là une des qualités principales de Déborah, vu que le mot prophétesse en dit long, elle est dépendante de Dieu. Numéro un. Dépendante de Dieu. Elle devait communiquer non pas sa pensée ou sa volonté, mais celle de Dieu. Et d'ailleurs, tout prophète qui se respecte, même aujourd'hui, même si les prophètes du Nouveau Testament n'ont rien à voir avec ceux de l'Ancien Testament, ils sont supposés transmettre la parole de Dieu, et pas la leur. Hein, quand vous avez un prophète qui vient vers vous pour vous dire « tu dois épouser un tel ou un tel », fermez vos oreilles et courez à toutes jambes. Non. Elle était supposée communiquer la pensée et la volonté de Dieu. Les gens n'ont pas tardé à s'en apercevoir. La sagesse divine de ses conseils devait forcément porter du fruit dans la vie des familles, dans les conflits, dans les problèmes d'héritage, vous savez, c'était très important, ou de commerce, ainsi que dans des problèmes proprement judiciaires où la parole du juge devait trancher. Je pense qu'ils ont dû expérimenter pendant des années la sagesse de Déborah. Sinon, elle serait pas devenue juge, ça c'est sûr, surtout pas une femme. Déborah a donc fait ses preuves. Elle est écoutée, respectée et aussi obéie. Ça déjà. Mais il ne faut pas oublier que c'est une femme. Elle n'a pas reçu ce ministère par héritage, par piston ou comme ça. Hein. Elle a dû gagner la confiance des gens parce que franchement, à cette époque, c'était pas cohérent dans la culture civile ou religieuse qu'une femme prenne un poste comme ça. Donc ça suppose deux choses. Elle a dû commencer petit. Personne n'aurait accepté qu'une femme se lève un beau matin et dise « voilà, je suis prophétesse, écoutez-moi, obéissez-moi ». Il l'aurait renvoyé à son balai. Hein. Elle a dû faire ses preuves pendant des années, dans sa famille d'abord. Parce que vous savez, les gens, ils se compliquaient pas la vie. Regardez un peu comment elle menait les choses dans sa famille. Oui, ils vivaient assez proches les uns des autres. Hein. Dans sa famille, dans sa ville, parce que t'es connu dans sa ville, dans sa tribu, puisqu'on dit que tout Éphraïm venait. Vous voyez, ça a dû se commencer petit. Et Dieu ne méprise pas les petits commencements. Elle a porté des bons fruits. Sa sagesse a dû aider de plus en plus de gens. Ses paroles inspirées ont dû exhorter, consoler, rétablir le droit et la justice, ramener des gens dans le droit chemin des commandements de Dieu. Et de plus en plus de gens sont allés la consulter. Ses avertissements et ses prédictions ont dû se réaliser. Vous savez comment on teste un bon prophète? C'est si ce qu'il dit se réalise. C'est ce que dit la Bible, hein. C'est pas moi. Hein. D'ailleurs, la Bible dit pour les prophètes, je dis en passant, on écoute les prophètes et on examine et on retire, on garde ce qui est bon. Parce qu'il y a une certaine quantité de déchets. Quand il y a des prophètes qui passent dans notre église, c'est la même chose. Chaque parole n'est pas directement sortie du cœur de Dieu. Il y a en général un petit noyau qui est en or et qui est vraiment, qui fait écho avec votre cœur. Vous sentez que Dieu vous parle. Puis il y a un peu de chair, un peu de la personne et ça, on rejette et on garde ce qui vient vraiment du cœur de Dieu. C'est ce que dit la Bible, hein, c'est pas moi. Retenez ce qui est bon, ce qui est bon, ce qui est conforme à la parole de Dieu, ce qui fait écho à votre cœur. Si Dieu vous reprend, vous savez bien, c'est ce que Dieu pense de vous en ce moment. Si Dieu vous console, vous exhorte, vous conduit dans une nouvelle direction, vous sentez un écho. Hein? Mais on n'est pas appelé à prendre tout et n'importe quoi en bloc. Retenez ce qui est bon. Et visiblement, chez Déborah, c'était fort, hein, parce que sa popularité s'est répandue sur toute la tribu et ensuite sur tout Israël. Et certainement, ces avertissements et ces prédictions sont réalisés. Chacun a reconnu, non pas la pensée et la volonté de Déborah, mais la pensée et la volonté de Dieu. Pour un peuple qui craignait encore un tout petit peu l'Éternel, c'était précieux. Donc, sa réputation a même passé les frontières d'Éphraïm, au point que dans le cantique de Déborah, elle s'appelle elle-même comme une mère en Israël, pas seulement en Éphraïm, en Israël. Donc là, on a affaire à quelqu'un d'un certain calibre. Hein. Alors, pourquoi une femme ? La seule femme juge, dans la Bible, on n'a pas d'autres femmes, leaders politiques, judiciaires et militaires. Même aujourd'hui, je ne crois pas qu'on en a des masses qui fassent politique, judiciaire et militaire. En Israël, peut-être Golda Meir était en Israël, peut-être. Pour beaucoup de commentateurs, l'auteur du livre des juges attire notre attention sur le problème du peuple d'Israël à cette époque. Alors, chapitre 5, verset 7, un petit peu après, on lit des choses comme « Les hommes étaient sans force, les chefs étaient sans force en Israël ». On dit, ah ben voilà, Dieu a levé une femme parce que les chefs étaient sans force. On voit même Barak, vous avez vu dans le texte qu'on a lu, qui ne veut pas aller au combat si Déborah ne l'accompagne pas. Alors là, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cet homme? Il faut que maman l'accompagne, mais c'est pas possible. Hein, il y a beaucoup de commentateurs qui sont tombés dans ce piège, et je crois pas. Là, franchement, je crois pas. J'ai peut-être été influencée par Monsieur Arnold, mais je crois vraiment pas. Parce que, vous y mettez-vous à la place de Barak. Il reçoit l'ordre de la prophétesse, il la respecte. Il doit lever une armée de 10 000 personnes pour aller se battre contre des chars de fer, beaucoup plus puissants. Je veux dire, si c'était une lavette, il aurait dit, écoute, va balayer ta maison et moi je reste chez moi. Mais il était d'accord pour lever l'armée. Il a été d'accord pour croire ce qu'elle a dit, pour lever son armée, pour partir à la guerre. Donc je pense pas que c'était une navette. Simplement, dans cette période extrêmement troublée des juges, ils voulaient s'assurer que la personne qui avait la parole de Dieu avec elle allait l'accompagner. S'assurer que la parole de Dieu soit avec lui. Ce qui n'est pas mauvais quelque part, mais voilà, c'est quand même un petit manque de foi. Vous allez voir que ça a été un peu sanctionné. Pourquoi les hommes se comportaient comme ça? Eh ben, on le voit un petit peu dans la suite, dans le cantique de Déborah. Ruben revient sur sa parole. Il refuse de venir. Il délibère. Gad, Dan et Azer restent en arrière. C'est les autres tribus, hein. Préfèrent s'occuper de ses affaires. Les hommes et les armées sont paralysés par la crainte et les hésitations. Donc, on est dans une époque où les hommes sont dans la crainte et l'hésitation. Pourquoi? Ça se comprend, hein. 20 ans de mainmise, 20 ans d'oppression. Ça vous change un bonhomme. 20 ans. C'est-à-dire que, donc, certains qui sont nés sous l'oppression ont vécu 20 ans sous l'oppression. Au moment où Déborah arrive, hein. Barak représente bien l'esprit des hommes de son époque. Il est hésitation, tergiversation, vacillement, flottement, tâtonnement, renoncement. Alors, certains commentateurs parlent de lâcheté masculine, mais, on va remarquer quelque chose de la part de Déborah. Elle n'usurpe pas un pouvoir réservé aux hommes. Dieu lui dit, envoie Barak, lever 10 000 hommes pour faire la guerre. Et elle n'a pas dit, oh ben Seigneur, tu sais, en ce moment, les hommes, ils valent pas grand-chose, je vais y aller. Elle a fait ce que Dieu lui demandait, elle était très fidèle. Et quand Barak lui dit, si tu viens pas avec moi, j'irai pas, elle dit pas, bon, ben écoute, reste chez toi, moi j'y vais, et jouer la Jeanne d'Arc. Non, elle est exceptionnelle, cette femme. Elle pourrait le faire, elle l'a démontré. Mais elle ne prend pas la place. Dieu avait donné une place à cet homme, Barak. Elle ne prend pas la place de Barak. Elle l'oblige à obéir. Et ça, je crois que dans l'Église, c'est quelque chose de très important pour le ministère des femmes dans l'Église. Dieu accepte le ministère des femmes, bien sûr, on le voit, toutes sortes d'endroits dans la Bible. Mais on n'est pas là pour remplacer les hommes. Même s'ils remplissent pas toujours ce que Dieu demande. On n'est pas là pour dire, bon, pour toi, je vais le faire à ta place. En aucun cas. Et Déborah n'usurpe pas la place. Ça, c'est important. Elle ne mène pas un combat féministe avant l'heure. Elle remplit un vide que Dieu lui demande de remplir. Elle dit pas dans sa petite tête, bon, les hommes en ce moment, ils sont un peu chiffre-molle, allez, hop, moi, je vais y aller. Elle fait ce que Dieu lui demande. Dieu lui dit, appelle Barak, il doit lever 10 000 hommes, il doit aller à tel endroit, elle transmet le message. Elle se dérange même pas. Elle joue pas les princesses, elle transmet, elle envoie un messager. Et puis quand Barak lui dit, écoute, non, je préfère que tu viennes avec moi, elle en profite pas pour dire, bah, reste chez toi, j'y vais. Vous voyez, elle a pas cette idée de faire les choses à la place de Barak ou de le remplacer. Et ça, je crois que dans l'église, c'est important. Parce qu'après des siècles où les femmes n'ont pas eu tellement la place dans les églises, on assiste parfois à un glissement où les femmes vont remplacer les hommes, usurper le rôle des hommes dans la famille, dans l'église aussi, et c'est dangereux. Ce n'est pas le plan de Dieu. Et d'ailleurs, c'est très bien ce qui s'est passé. C'est un peu ce qui doit se passer. Elle accompagne. Donc, elle agit uniquement par obéissance à Dieu. Elle est totalement dépendante de Dieu. Et j'aime bien ce verset, justement, pour le ministère des femmes. J'y pense souvent. C'est Philippiens 2:6. André l'a lu dans la version amplifiée de Kuhn, mais il dit Jésus ne regarde pas comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu. Et à partir du moment où le ministère des femmes devient une proie qu'on arrache, c'est même pas la peine d'y penser. C'est plus un ministère. C'est pas une proie qu'on arrache. Ça ne saurait être une proie qu'on arrache. C'est l'obéissance à Dieu qui compte. Et Déborah était fidèle dans cette obéissance, dans cette dépendance de Dieu. Elle est totalement dépendante de Dieu depuis très longtemps, visiblement. Elle a commencé tout petit. Elle a instauré la confiance parce qu'elle était dépendante de Dieu. Et la deuxième chose qui est remarquable chez elle, c'est son humilité. Elle reçoit un message extrêmement clair de Dieu. Barak doit se rendre avec 10 000 hommes près du torrent, etc. Et je livrerai tous ses chars aux mains de Barak. Elle quitte pas son poste. Elle envoie quelqu'un transmettre le message. Elle cherche pas à se mettre en avant. Elle se donne pas d'importance. Consciente et sûre que Dieu va accorder la victoire, elle ne cherche pas à prendre la place de Barak. Elle va pas prendre l'épée et mener son armée. C'est le rôle de Barak. Et quand il hésite, elle ne cède pas à la tentation de le remplacer. Elle l'encourage à obéir. Et je crois que le ministère de la femme aussi, c'est d'encourager les hommes à obéir à Dieu quand Dieu les appelle. Elle refuse toute gloire personnelle et elle préfère s'effacer. D'ailleurs, à part son cantique finalement, et puis ce petit passage, on ne sait pas beaucoup plus de choses sur elle. Elle ne se met pas du tout en avant. Et elle va même, quand elle fait le cantique, le chanter avec Barak. Dépendante de Dieu, notre abeille ne manque pas de courage. Et c'est sa troisième qualité, grande qualité. Parce que c'est facile pour un prophète d'envoyer quelqu'un à la bagarre. Dieu m'a dit ceci, je me souviens, c'était Anne Griffith, qui était une prophétesse remarquable, hein, qui est passée en notre église, et qui disait, mais moi je suis consciente que j'apporte des choses à votre église, mais c'est quand même vous qui allez devoir faire le travail. Elle était consciente, et c'est vrai, c'est facile pour un prophète de dire, faites ceci, faites cela, allez ici, allez là, et puis allez-y, bon courage, Dieu vous bénisse. Dieu m'a dit ceci, n'hésitez pas, je suis sûre que Dieu est avec toi, vas-y, mais moi je me dérangerai pas. Jésus parle de ces pharisiens, vous savez, qui il dit qu'ils posent des lourds fardeaux sur les épaules des gens, mais ils sont pas prêts à les soulever du petit doigt. Et Déborah n'était pas de ces gens-là. C'est pas du tout son cas. Rendez-vous compte qu'elle a dû faire 70 kilomètres avec l'armée. Et pas d'autoroute, hein. Et quand il lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Et c'est curieux ce mot qui revient. J'ai compté 5 fois sur 2 versets. Elle répondit, j'irai avec toi. Verset 10. Puis Déborah alla. Déborah aussi monta avec lui. La Bible insiste sur le fait qu'elle y est allée. Elle y est allée. C'est une chose de parler. C'est une autre chose de le faire. Elle ne semble même pas hésiter. Elle est tellement sûre, elle, de la parole de Dieu. Elle a une telle relation avec Dieu, une telle dépendance de Dieu, qu'elle n'a pas peur d'y aller. Elle n'a pas peur d'être tuée à la guerre. Ça aurait pu arriver, hein. Une flèche perdue dans un coin. Elle se contente pas de paroles. Elle prouve sa foi. Et quelqu'un a dit, quand nos paroles et nos actions sont en cohérence, notre témoignage est puissant. Et si on veut que notre témoignage de chrétien soit puissant, il faut que nos paroles et nos actions soient en cohérence. Sinon, qu'est-ce que les jeunes reprochent beaucoup aux chrétiens aujourd'hui, les jeunes du monde, je parle, je le vois avec mes élèves, c'est l'hypocrisie, c'est l'incohérence. Et quand ils rencontrent des gens qui sont cohérents, le plus cohérent possible en tout cas, on peut jamais être parfait, ça les touche. Notre témoignage est puissant. Et elle était de ces femmes. Elle avait la foi. Elle savait que Dieu avait dit vrai. Et peu importe les 900 chars de fer, elle a accompagné. Tu veux que je vienne? Je viens. Parce que je sais que mon Dieu a dit la vérité et je lui fais confiance. Et c'est pour ça que le peuple l'a reconnue comme leader. Elle était capable de croire, de transmettre et de faire. Elle est aussi capable, et là je l'ai trouvée courageuse, de prévenir Barak que ce manque de confiance en Dieu va le priver de l'honneur de vaincre Sisra. Enfin quand même, hein, elle lui avait donné des ordres de la part de Dieu, elle aurait pu le contrarier en disant, bah écoute, voilà, puisque tu veux que j'aille avec toi, c'est dommage parce que c'est une femme qui va tuer Sisra, c'est pas toi. Elle a pas eu peur de le dire. Dieu lui avait dit de le dire, elle l'a dit. C'était peut-être un peu dangereux, ça aurait pu le défriser, ça aurait pu le mettre en colère, ça aurait pu créer une difficulté. Elle l'a dit. Très, très courageuse, je trouve. Elle fait confiance à Dieu, Dieu Tout-Puissant, à l'Éternel des armées. Et Barak va savoir reconnaître l'ordre de Dieu, même si c'est une femme qui le transmet. À cette époque, hein, fallait le faire, hein. Bon, aujourd'hui, ça passe peut-être un petit peu mieux, mais... Lui, le commandant de l'armée, il va accepter l'idée qu'une femme de Dieu lui donne des ordres. Et il obéit. Parce qu'il a reconnu Dieu derrière. Ce qui fait qu'en fait, le plus important, c'est pas qui est le messager. La Bible nous le montre mille fois. Mais est-ce qu'il a vraiment une parole de Dieu? Parce que parfois, vous avez des ministères grandioses, connus, etc. C'est pas ça l'important. Peu importe la personne en face de vous, ça peut être même votre voisin. Quelquefois, Dieu utilise même des inconvertis pour donner une parole de Dieu, cohérente avec la Bible, bien sûr. Une parole de Dieu. Et on est appelé à la recevoir, peu importe de qui elle vient. Si elle est cohérente avec la Bible et qu'elle vient vraiment de Dieu, on a intérêt à la prendre. Et je crois que ça, Barak l'a très bien compris. Et il avait besoin d'être accompagné par une femme de Dieu. Donc c'est à une autre femme que Dieu va confier la victoire, qui aurait dû lui revenir. Mais voyez la bonté de Dieu, il ne lui refuse pas ce qu'il demande. « Oh, viens avec moi !» Et Dieu n'est pas là. « Oh, Barak, t'es un nul! Tu seras plus commandant !» Non, il dit, bah écoute, c'est dommage, hein, tu aurais pu avoir cette victoire pour toi, mais c'est pas grave, c'est une femme qui l'aura, mais il le laisse. Voyez la bonté de Dieu. Parfois, on a l'image d'un Dieu cassant. « Oh, t'as pas fait exactement ce que je t'ai demandé, alors tu vas payer. » C'est pas du tout ça. Dieu dit, « Oh, Barak, c'est dommage. » C'est une femme qui va avoir la victoire sur Sisera. Au lieu que ce serait toi, ce serait tes chouettes. Bon, c'est pas grave. Voyez, il a quand même fait le champ avec Déborah, il a quand même eu les honneurs. Dieu n'a pas renié son serviteur sous prétexte qu'il a manifesté un petit manque de foi. Je pense que Florence voulait parler d'un autre aspect. Pour terminer, je vais lui laisser la place parce que c'est, elle est assez fan de Déborah. Donc voilà, je laisse là. On en est là.
Oui, il y a des petits points que je voulais rajouter. Il y en a un point que j'ai pas validé avec toi, mais tu me reprendras si c'est pas ça. Ce que j'aime bien, c'est l'image du palmier. Déborah, elle rend les jugements sous le palmier. Et je sais pas si vous savez un peu cet arbre-là. Si je me souviens bien, je crois qu'il a des racines très profondes. Et quand il y a une tempête, il peut se plier complètement jusqu'à toucher le sol, mais il ne se casse pas. Il ne se déracine pas. Et donc, j'aime bien l'image qui est liée à ça, le fait que Déborah rend justice sous cet arbre. Donc, c'était une petite parenthèse. Voilà, ce que je voulais souligner par rapport à Déborah, c'est que en tant que femme, elle évite deux pièges très classiques pour les femmes. La première, donc, on l'a déjà dit, c'est le fait de ne pas être en compétition avec l'homme. C'est-à-dire que chacun a sa place et que devant Dieu, on est tous... On a tous notre valeur, on a tous une importance, et l'homme n'est pas plus important que la femme, et vice-versa. Et on voit cette tendance parfois, effectivement, comme une proie arrachée, on veut la place de l'homme, on veut être les mêmes. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ce à quoi Dieu nous appelle, on a chacun notre place. Et Déborah ne tombe pas du tout dans ce piège-là. Vraiment, elle dit, bon bah Dieu m'a dit de demander à cette personne, c'est lui qui va remporter le combat, c'est lui qui va mener le combat, et je vais pas prendre cette place parce que c'est moi qui ai reçu la parole de Dieu. Donc je voulais vraiment encourager dans ce sens-là à ce que nous, en tant que femmes, on a notre place, Dieu nous donne notre place, et on n'a pas à avoir une compétition avec l'homme. Et le deuxième piège, encore une fois, c'est la compétition avec les autres femmes. Du coup, on voit que Déborah n'hésite pas à dire ce que Dieu lui demande, donc c'est la victoire sera donnée à une autre femme. C'est une autre femme qui a tué Sisera. C'est pas elle, encore une fois, qui a pris... ce pouvoir quelque part, elle n'a pas hésité à laisser ce qui revient aux autres en fait. Je m'embrouille un petit peu, mais l'idée c'est vraiment Déborah avait ce rôle-là, elle était messager de Dieu et elle pouvait pas tout faire. Et l'importance vraiment de travailler en équipe, alors pour les femmes, de vraiment aussi voilà quand on arrive à un rôle qui est peut-être on va dire qui semble convoité parfois, on dit ouais, il y a pas beaucoup de femmes qui sont là, alors je vais garder cette place là, mais je vais pas la partager avec les autres parce que voilà, c'est important. Et c'est pas du tout ça que Dieu nous demande et Déborah n'a pas du tout fait ça. Elle est vraiment restée dans l'obéissance. Et dans notre vie de tous les jours, enfin voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est ce qui est important, c'est vraiment l'obéissance. Dans le sens où peu importe ce que disent les circonstances autour de nous, peu importe ce que dit la culture ou la bienséance, si Dieu nous dit d'être à cette place, on le prend, on prend cette place, on vole pas la place de quelqu'un d'autre et on n'empêche pas les autres aussi de venir à côté de nous. Et je voulais aussi illustrer avec un livre que je lis, c'est Lioness Arising de Lisa Beveré, donc c'est Lionne, lève-toi. Et elle insiste beaucoup sur le fait que ça peut être très C'est beau et c'est puissant quand les femmes travaillent ensemble, au lieu de se crêper le chignon, comme on dit parfois, au lieu d'essayer de « je fais ma place dans la société, c'est tellement dur d'avoir sa place que poussez-vous, je m'y mets ». Non, c'est tellement plus fort quand les femmes sont unies, et pas unies contre les hommes, soyons bien d'accord, mais unies entre elles pour faire l'œuvre de Dieu. Et donc si son titre s'intitule comme ça, le Lioness Arise, c'est parce que justement elle a fait le parallèle avec les lions et les lionnes en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle explique combien les lionnes travaillent ensemble. Elle dit les lionnes, elles chassent ensemble, elles mangent ensemble, elles font leurs exercices ensemble, elles s'occupent des enfants ensemble. Elles feast together. C'est plus que manger, c'est vraiment c'est profiter de faire le festin ensemble et elles assument tout à fait ce rôle-là qu'elles ont en tant que lionnes d'aller chasser alors que les lions ils ne chassent que de temps en temps et elle faisait le parallèle et une phrase qu'elle dit: les sœurs sont probablement la relation la plus compétitive au sein de la famille, mais une fois que les sœurs ont grandi et grandi pas seulement en âge mais en maturité, qu'elles sont vraiment elles ont pris la maturité, ça devient la relation la plus forte. Et je voulais vraiment encourager dans ce sens-là où, en tant que femme, que sœur en Christ, il y a vraiment cette puissance qu'on peut avoir ensemble, à travailler ensemble, et qu'il faut rester dans cette attitude qu'avait Déborah, donc de ne pas chercher à prendre la place de l'homme et ne pas laisser les femmes autour de nous travailler avec nous. Voilà.
Merci Florence. Si de temps en temps d'ailleurs quelques-uns ou quelques-unes ont des petits commentaires à rajouter au message, n'hésitez pas, je trouve que c'est aussi sympa. Voilà, donc on va prier parce que j'ai largement dépassé l'horaire. Que Dieu fasse de nous des Déborah pour nous les femmes et que les hommes, les baraques de notre église, sans jeu de mots, soient solides dans le Seigneur. Seigneur, merci de faire de chacun de nous, les femmes, chacune de nous, des Déborah, vraiment dépendantes de toi, remplies d'humilité, mais aussi de courage et sans esprit de compétition. Et que les hommes de cette église ne soient pas comme les fils de Ruben qui étaient tout en délibération et en hésitation, mais qu'ils soient forts en toi, obéissants à ta parole, dynamiques, et qu'ils soient comme Barak, qu'ils sachent lever une armée pour toi. Seigneur, merci de ce que tu nous as donné de travailler ensemble et non pas en compétition les uns avec les autres. Et veuille nous y aider dans notre vie quotidienne, dans la famille, dans les fratries aussi entre frères et sœurs, et dans les familles, et dans l'église, dans la société aussi, que nous soyons vraiment des modèles qui encouragent les autres et qui donnent de l'espoir pour les relations entre les hommes et les femmes dans notre pays. Amen.